Vous écoutez RTL.
Wenn nicht jetzt, dann vielleicht.
Ce jour-là, je me suis dit peut-être qu'une occasion pour me libérer ne se présentera plus jamais. Et je me suis rendu compte de manière très forte que si je ne m'échappais pas, j'allais rester à l'infini dans ce cachot, enfermé.
Bonsoir, c'était il y a 23 ans à Vienne, Autriche. Natacha Campouche, 10 ans, était enlevée sur le chemin de son école. Un rapt éclair sur lequel la police viennoise va se casser les dents. Peu ou pas d'indices, des témoignages inexistants, l'œuvre sans doute d'un maniaque sexuel. 8 années vont ainsi s'écouler, 8 années de silence total, laissant présager une fin funeste pour la petite Natacha. On va alors perdre tout espoir de la retrouver vivante jusqu'à ce qu'elle réapparaisse au mois d'août 2006 sous les traits d'une jeune fille âgée de 18 ans. Une histoire criminelle unique, 3096 jours de séquestration à une poignée de kilomètres seulement de chez elle, une interminable parenthèse qui, malgré les explications, les interviews, les rapports des autorités, deux livres écrits par Natacha Campouche elle-même, une affaire qui n'a jamais livré tous ses mystères, un voile de non-dit, de réponses embarrassées et de murmures a été déposé sur ce dossier, comme si l'Autriche ne voulait plus jamais en entendre parler. Pourquoi une telle gêne? Pourquoi le ravisseur a-t-il échappé si longtemps à la police? La jeune fille aurait-elle pu être libérée plus tôt? D'autres personnes étaient-elles au courant de cette séquestration? Des questions que nous abordons ce soir avec nos invités, l'affaire Natacha Campouche n'ayant toujours pas livré sa part d'ombre.
20h-21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
Et ce soir donc dans l'heure du crime, l'affaire Natacha Campouche, un dossier unique, 3096 jours de séquestration à faire, qui débute par un rapt en pleine rue à l'hiver 1998, dans une rue de Vienne, en Autriche. Ce lundi 2 mars 1998, vers 7h30, Natacha Campouche, 10 ans, quitte, cartable sur le dos, le logement où elle vit avec sa mère, Brigitta Simi Campouche. Cette vendeuse s'est récemment séparée de son mari Ludwig Koch, un boulanger. L'appartement maternel est situé dans une barre d'immeubles d'une cité, dans le quartier gris et excentré de Donaustadt. La petite fille a l'habitude de se rendre à pied le matin à l'école élémentaire de Briocheweg, à environ 800 mètres de chez elle. Elle connaît par cœur le trajet. Après avoir traversé un carrefour, elle doit tourner à droite. Ce matin-là, il fait froid, encore sombre et il n'y a personne dans les rues. Après avoir parcouru 500 ou 600 mètres, Natacha Campouche aperçoit devant elle une fourgonnette blanche garée sur une place de stationnement. Elle remarque un homme mince et pas très grand qui semble attendre quelqu'un. Arrivé face à lui, cet inconnu la dévisage. Il me regarda dans les yeux. Il avait les yeux bleus et des cheveux un peu trop longs. Il avait le regard bizarrement perdu lorsqu'il me dévisagea pour la première fois ce matin-là. Il semblait égaré et très fragile, écrira Natacha Campouche dans 3096 jours, son premier livre de mémoire. La petite fille n'a pas le temps de dépasser l'individu. Celui-ci la grippe par la taille, la soulève du sol et la dépose dans le véhicule. Le fourgon Volkswagen démarre aussitôt dans la rue déserte. L'enlèvement n'a duré qu'une poignée de secondes. L'école élémentaire constate l'absence de l'élève Natacha Campouche. Sa mère est rapidement prévenue. Elle ne peut que répondre que Natacha a quitté l'appartement et qu'elle ne s'y trouve plus. La petite fille n'est pas non plus chez son père, Ludwig, avec qui elle a passé le week-end en famille, dans la Hongrie toute proche. Natacha avait encore son passeport sur elle quand elle est partie à l'école. La police est prévenue et l'hypothèse de la fugue rapidement écartée, même si personne n'était présent à hauteur des numéros 26 à 30 de Melangas, la rue où elle s'est évaporée. Les enquêteurs disposent d'un témoignage convaincant, celui d'une écolière de 12 ans prénommée Ishtar. Elle décrit la camionnette blanche et identifie le modèle. Ishtar affirme avoir vu un homme s'emparer de la petite fille, mais elle précise qu'un deuxième homme se trouvait alors au volant du véhicule. C'est lui qui a aussitôt démarré. Le témoin numéro 1 va être entendu à 6 reprises par la police. À chaque fois, elle va confirmer la présence présence de deux hommes lors du rapt, Ishtar se rétractera des années plus tard quand Natacha Campouche affirmera qu'un seul et même homme l'avait enlevé. La police criminelle de Vienne ne dispose que de maigres indices pour avancer. À l'époque, la vidéosurveillance n'est pas développée, surtout dans ce quartier qui ne compte que peu de commerces. La piste de la camionnette est la seule qui pourrait porter ses fruits, un travail de fourmi. En Autriche, presque tous les artisans et livreurs roulent dans ce genre de véhicules. Bonsoir Blaise Coquelin.
Oui, bonsoir.
Merci beaucoup d'avoir accepté ce soir l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes, je le précise, journaliste à l'agence France Presse à Vienne et vous connaissez parfaitement ce pays. Vous y êtes installé depuis des années et vous connaissez très bien cette histoire. Alors, Blaise Coquelin, on va s'étendre sur l'enquête qui arrive et qui s'annonce d'emblée difficile. Peu ou pas de témoins, on l'a dit. Rien de concret. À l'époque, est-ce que vous vous souvenez, comment le rapt est-il perçu? C'est un choc, cette histoire, cet enlèvement d'une petite fille?
Oui, c'était quand même un choc parce que l'Autriche est quand même un petit pays. À l'époque, peut-être 8 millions d'habitants. Maintenant, il en compte 8 millions 9, presque 9. Et il n'y avait pas beaucoup de petites filles qui avaient disparu. Et comme tous les Autrichiens quasiment, moi, je pensais qu'elle était décédée, qu'elle avait traversé la route de quelqu'un de malveillant. Et c'est très rare de voir réapparaître des victimes comme ça de manière inopportune, que diront les Autrichiens plus tard, parce que personne ne l'a aidé à se libérer. C'est ça aussi la spécificité de cette histoire. Et donc, quand elle a réapparu, ça a été un immense choc. Le soir même, quasiment, je crois, elle a donné une interview à la télévision. Et il y avait 2,5 millions d'Autrichiens qui la regardaient. C'était absolument comme un fantôme qui revenait de l'au-delà. Quoi.
Alors, Blaise Coquelin, évidemment, on va parler de ce fantôme, comme vous dites si bien, qui revient de l'au-delà dans les chapitres qui viennent dans cette heure du crime. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce quartier populaire, hein, c'est un quartier de cité presque, je pense. À quoi ressemble ce quartier où a été enlevée la petite fille?
Alors, vous savez que la ville de Vienne, c'est une des capitales au monde qui compte le plus de HLM. Hein. Beaucoup de Viennois habitent dans des HLM, donc en périphérie de la ville. C'est toujours Vienne, mais c'est pas la même Vienne que celle du centre-ville. C'est effectivement la Vienne des mères célibataires et des petits commerces. Évidemment, Natacha Campouche, donc elle porte le nom de sa mère, parce que quand on n'est pas marié en Autriche, eh bien, les enfants portent le nom de la mère biologique et pas du père. Donc, elle ne porte pas le nom de son père, ses parents sont séparés. Ce qui est resté aussi dans les mémoires, c'est que sa mère a donné des interviews au moment de sa disparition et elle s'était fâchée le matin même de la disparition de la petite Natacha. Elle avait donné une gifle à sa fille et la mère a beaucoup souffert pendant les 8 ans de sa captivité en pensant qu'elle s'était... dernière image qu'elle avait eue de sa fille, c'était cette gifle qu'elle lui avait donnée.
Et qu'elle portait effectivement sans doute peut-être une part de responsabilité dans ce qui avait pu arriver à sa fille. Bonsoir Morin Picard.
Bonsoir.
Ah, merci beaucoup d'être avec nous ce soir, vous aussi dans l'heure du crime. Je précise que vous êtes ancien correspondant du Figaro en Autriche et que aujourd'hui vous êtes basé à New York. Et c'est depuis New York que nous avons cette conversation. Je vous remercie beaucoup d'être là ce soir. On l'a effleuré avec Blaise Coquelin. La famille Campouche, c'est une famille tout à fait modeste. Il y a même pas, on ne va pas réclamer de l'argent, même si c'est un rapt à une telle famille.
Effectivement, tout à fait. Hein. C'est une famille modeste des faubourgs de Vienne, une famille qui est séparée, comme l'a dit Blaise, qui utilise sans doute le tramway et le métro ou le train régional plutôt qu'une voiture. La jeune fille va toute seule à l'école. On est vraiment très loin de la Vienne et de l'Autriche rêvée. C'est une famille modeste, oui.
Ouais. Et pour préciser encore sur cette ambiance viennoise, un pays d'ailleurs, moi je ne connais pas, je ne connais pas Vienne. On a pas l'habitude de ce genre de faits divers dans cette ville, non ? Qui est une ville plutôt calme, presque provinciale, cette capitale.
Bien sûr, comme tous les Français, on en a l'image d'une ville musée, magnifique, le concert du Nouvel An, les décors splendides, les costumes, Mozart, voilà. Non, on est vraiment très loin de cette image et on est vraiment dans une grande pauvreté sociale, et ce qui explique aussi la situation de la petite Natacha, oui.
Alors, Blaise Coquelin nous disait qu'effectivement, ça avait été un choc tout de suite, cet enlèvement. Est-ce qu'on peut dire, Morin Picard, que la police prend l'affaire très au sérieux et se mobilise, ou bien finalement on ne sait pas trop où on va et on laisse un peu courir les choses?
Oui, alors c'est un choc médiatique, populaire. C'est un pays entier qui va se passionner pour cette affaire. On a des affichettes de la petite Natacha, qui est une jeune fille un petit peu replète, à 10 ans, qui apparaissent partout sur les murs et sur toutes les estrades du pays entier. C'est un tremblement de terre, en fait, à l'image de l'Autriche. On va la chercher pendant des mois, et ces affiches vont rester même pendant des années sur les murs de Vienne et de toutes les villes autrichiennes. Et au bout d'un moment, c'est un petit peu comme ces affaires d'enfants disparus en France. On vit avec le fantôme de Natacha Campouche, qui est probablement morte, puisqu'on n'a plus jamais entendu parler d'elle. Donc personne ne peut s'imaginer une seconde qu'elle est encore vivante.
Aucune piste n'est négligée dans ce contexte familial. Pourquoi ne pas soupçonner les proches? La mère ou le père auraient pu très bien imaginer le rapt, à moins que l'enlèvement soit l'œuvre d'un tueur en série. Enquête tous azimuts et de grande ampleur, mais qui va conduire à des impasses successives. Dans les semaines qui suivent le rapt, une équipe de la brigade criminelle est plus spécifiquement attachée à vérifier toutes les camionnettes blanches identiques à celles utilisées pour l'enlèvement. Les propriétaires autrichiens de 776 minivans sont ainsi questionnés, tous un alibi, lequel n'est pas forcément vérifié avec beaucoup de rigueur. Ainsi, si le profil de l'intéressé ne comporte aucun antécédent judiciaire, ce dernier est sommairement questionné sur son emploi du temps au matin du lundi 2 mars 1998. C'est le cas du technicien en téléphonie Wolfgang Priklopil, 36 ans, un homme qui habite au numéro 60 de Heinestrasse à Strassow, une banlieue tranquille à une quinzaine de kilomètres de Vienne. Aucune vérification poussée ne le concerne. Il ne sera jamais plus questionné par les enquêteurs. La piste du fourgon ne donne rien. La police se penche également sur l'entourage familial de Natacha Campouche, une famille émiettée où les disputes seraient nombreuses, permanentes. La mère, Brigitta, qui a eu 2 grandes filles et a déjà 5 petits-enfants, admet qu'elle s'est disputée avec la cadette le matin même de sa disparition. Elle va être soupçonnée un temps d'avoir fait disparaître elle-même Natacha. Une punition qui aurait finalement mal tourné. Les enquêteurs vont questionner à plusieurs reprises Brigitta, sans toutefois trouver la moindre preuve contre elle. Ludwig, le père, n'échappe pas non plus aux doutes policiers. Des vérifications sont ainsi lancées en Hongrie, où le boulanger a des attaches familiales et où Natacha a passé le week-end juste avant de disparaître. Elle aurait pu être emportée de l'autre côté de la frontière, mais dans quel but? Cet homme était certes séparé de son épouse, mais il n'avait aucune intention de récupérer sa fille. Le père va démentir toute implication dans le rapt et désigner son ancienne associée comme étant possiblement impliquée dans cette affaire. À nouveau, une fausse piste. Les mois et les années vont se succéder sans qu'aucun indice ni témoignage ne mène à Natacha Campouche. 2 ans après la révélation de l'affaire Marc Dutroux en Belgique, la séquestration atroce et la mort de fillette, la piste d'un éventuel tueur en série est explorée, celle en particulier du Français Michel Fourniret, qui utilisait une camionnette pour accomplir ses forfaits et se déplacer sur de longues distances. L'enquête s'éternise et s'enlise. Au bout de quelques mois, les policiers autrichiens ont déjà fait une croix sur le sort de Natacha Campouche. Ils n'ont plus aucun espoir de la retrouver vivante. Les proches et la famille de l'écolière sont désespérés. Seul un miracle pourrait faire ressurgir Natacha. La multiplication des enlèvements d'enfants non résolus, dont la disparition d'Estelle Mouzin en France en 2003, va renforcer le pessimisme ambiant. Plus personne ne va prêter attention à la photo de l'écolière aux bonnes joues et au manteau rouge affiché partout. Blaise Gauquelin, vous êtes l'un de nos invités ce soir dans l'heure du crime, en direct depuis Vienne, où vous êtes journaliste à l'agence France Presse. Alors, c'est toujours très très facile de refaire l'histoire après coup. Est-ce que là, on est dans le creux de l'enquête, finalement, qui va s'éterniser et durer 8 ans? Pourquoi, selon vous, les investigations sont aussi lentes et aussi infructueuses?
Alors, c'est vrai que l'Autriche, c'est un petit pays qui n'a pas forcément les mêmes moyens d'enquête que la France, par exemple. Et les disparitions d'enfants sont quand même extrêmement rares. Donc, il n'y a pas forcément beaucoup d'antécédents sur lesquels la police peut se baser pour mener ce genre d'enquête. Comme les frontières de Vienne avec les pays d'Europe centrale et orientale sont proches, c'est vrai qu'on est allé tout de suite voir ce qui se passait en Hongrie, en République tchèque, dans les pays voisins. Ou alors dans l'entourage proche, mais qui aurait pu imaginer qu'un inconnu croiserait la route de cette jeune fille, la prendrait dans sa camionnette et l'enfermerait dans une cave. Personne à aucun moment n'a pensé à un scénario pareil. Mmh. Alors c'est vrai qu'après, c'est facile de refaire l'histoire,
bien sûr,
effectivement.
Toujours.
Mais c'est vrai qu'après la réapparition de la jeune fille, il y a eu des enquêtes qui ont été faites pour savoir si la police avait bien fait son travail. Il a quand même été établi de manière absolument évidente que la police avait fait des erreurs dramatiques. Et la spécificité de cette histoire, c'est que Natacha Campouche, quand même, à 18 ans, ne doit sa libération qu'à elle-même.
Qu'à elle-même,
et
bien sûr.
Et c'est ça qui est vraiment particulier dans cette affaire. Cette jeune fille, apparemment, elle n'a dû sa survie qu'à sa volonté farouche de vivre.
De s'en sortir, bien sûr.
Oui, de tout s'en à sortir. Fait. Oui.
Morin Picard, je pense que vous êtes d'accord avec Blaise Gauquelin. Vous êtes l'ancien correspondant du Figaro en Autriche et vous êtes en ligne depuis, dans l'heure du crime avec nous depuis New York où vous travaillez. Aujourd'hui, je parlais des vérifications sur la camionnette. C'est l'un des exemples un petit peu de faiblesse de cette enquête, on ne va pas vraiment aller au bout des choses. Finalement, on se désintéresse de ce cas assez vite, non ?
Oui, et puis on est dans un scénario assez où la fiction dépasse les réalités, puisque, comme vous l'avez dit, il y a 776 minivans qui ont été traqués, leurs propriétaires retrouvés, et ils l'ont vu. Ils ont vu Wolfgang Triklopil, qui a réussi à donner le change, bien que l'équipe de policiers qu'il a rencontré ait eu une légère suspicion en rédigeant son rapport. Mmh. Mais il a réussi à s'en sortir, il a réussi à donner le change. Ce qu'il faut bien réaliser aussi, c'est que tous les policiers le savent, ce genre d'enquête, les 24 à 48 premières heures sont toujours décisives
dans cette
disparition. Ensuite, l'enquête traîne en longueur, elle va s'étendre à tout le pays. Vous l'avez dit, on parlera même de Michel Fourniret, des pays alentours. Mais c'est déjà trop tard. Natacha Campouche est juste à côté, à quelques dizaines de kilomètres. Et surtout, son ravisseur a réussi à la séquestrer de manière assez extraordinaire, du moins dans les premières années. Elle a totalement disparu 6 pieds sous terre, au sens figuré. Mmh. Et on est dans un pays, c'est très important, je crois, où les voisins détournent le regard. On est dans un pays où la liberté individuelle s'exprime de manière assez forte. Les faits divers révèlent souvent en Autriche que les voisins ont jeté ont détourné le regard quand quelque chose se passe, vous savez, dans le jardin d'une maison alentour. On ne veut pas savoir, on ne veut pas voir, on ne veut pas chercher à comprendre ce qui se passe dans l'intimité d'une famille. Et en plus, Wolfgang Triklopil, qui vit seul, a fait disparaître cette jeune fille. On ne la voit plus du tout physiquement.
Alors ça, c'est très important ce que vous nous dites, Morin Picard, sur la mentalité locale. Et effectivement, cette absence, non pas de curiosité, mais plutôt cette pudeur, cette envie de ne pas regarder chez le voisin, qui va expliquer d'ailleurs beaucoup de choses, puisque effectivement, cette petite fille, elle va être vue dans ce jardin à plusieurs reprises. Blaise Gauquelin, est-ce que... évidemment, la presse va parler beaucoup de l'enlèvement de la petite fille, mais ensuite, de moins en moins, finalement, Natacha Campouche, au fil des mois et des années, son nom va s'effacer, c'est ça ?
Oui, je pense que la famille, l'origine sociale de la famille a aussi énormément joué. Ce sont des gens qui n'avaient pas forcément les ressources sociales, sociétales, pour maintenir cette affaire sur le devant de la scène. C'est beaucoup plus simple. Ce qui est très paradoxal aussi dans cette histoire, c'est que la victime est d'origine sociale extrêmement modeste, mais que le ravisseur, lui, par contre, n'est pas d'un milieu social modeste. C'est quelqu'un qui appartient plutôt à la petite bourgeoisie viennoise, avec des connexions quand même. Son meilleur ami est quand même connecté d'une certaine manière à la société viennoise. Donc les parents de Natacha n'avaient pas les ressources forcément pour maintenir l'intérêt des médias dans cette affaire. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui a évolué ces 20 dernières années. Maintenant, les familles se sont presque professionnalisées, disons, avec les réseaux sociaux.
Et c'est le cas en France aussi.
Pas les réseaux sociaux. Oui, c'est ça.
Et c'est le cas en France aussi. Alors, on disait que seul un miracle pouvait faire réapparaître Natacha Campouche, et alors qu'elle avait quasiment disparu du paysage criminel, et que cette affaire devait rester à jamais un cold case, eh bien, tout va rebondir d'une façon tout à fait spectaculaire. Ce 23 août 2006, aux alentours de 13h, Ingeborg Kozik, une retraitée qui habite à la sortie de la petite commune de Strassow, entend des cris qui proviennent de l'arrière de sa maison, côté jardin, près de la fenêtre de la cuisine. Des appels à l'aide. Elle va aussitôt voir ce qui se passe et aperçoit alors une jeune fille blonde aux yeux bleus, pâle et presque maigre, 1,60 m pour 42 kg, qui pousse le portail et se précipite vers elle. Cette inconnue est totalement paniquée. Elle dit à la retraitée qu'elle est Natacha Campouche, l'écolière enlevée le 2 mars 1998 à Vienne. Elle supplie la vieille dame de la croire, lui demande de vérifier sur des journaux de l'époque qu'elle aurait pu conserver, l'exhorte d'appeler la police, car sinon, il va venir, dit-elle, il va nous tuer. Elle était sincère, elle était très excitée, elle tenait à peine sur ses jambes, racontera Ingeborg Kozik. La police est alertée, aux deux agents, la jeune fille répète qu'elle est Natacha Campouche. Elle dit qu'elle était séquestrée à quelques centaines de mètres de là, la maison jaune au numéro 60 de Heinestrasse. Son ravisseur s'appelle Wolfgang Priklopil. Elle explique qu'elle passait l'aspirateur dans la voiture, dans la cour de la maison, quand Wolfgang a été appelé au téléphone. Il s'est alors concentré sur son coup de fil, s'est éloigné à cause du bruit de l'aspirateur. Un moment d'inattention dont elle a profité pour détaler à toutes jambes sans qu'il ne s'en aperçoive, franchissant une clôture, traversant une série de jardins. Les policiers sont éberlués. Ils emmènent tout de suite la jeune fille au poste de police le plus proche, à Deutsch-Wagram. La brigade criminelle est alertée de ce spectaculaire rebondissement. Même si Natacha Campouche est méconnaissable, sa captivité n'a pas favorisé sa croissance. Elle a seulement grandi de 15 cm depuis le rapt et a perdu 3 kilos. Ses propos sont cohérents. Les empreintes digitales matchent avec celles de l'écolière, introuvable. Elle porte bien une cicatrice qui correspond à celle signalée par ses parents après le rapt. En attendant qu'un test ADN vienne bien confirmer qu'il s'agit de Natacha Campouche, la police viennoise veut mettre la main sur ce Wolfgang Priklopil et tirer au clair cette incroyable accusation de séquestration. Quand ils arrivent à l'adresse indiquée par la captive, les enquêteurs trouvent porte close, pas de voiture, le propriétaire a précipitamment quitté les lieux. Il s'est en fait rendu chez son seul véritable ami, Ernst Holzpfaffel, son associé dans une petite entreprise de rénovation et de vente d'appartements. Il aurait affirmé être poursuivi par la police à cause d'un délit d'ivresse. Son ami l'aurait accompagné à la gare nord de Vienne. La police n'est pas informée de ces détails. Elle publie dans l'après-midi un avis de recherche. Le soir même, à 20h59, Wolfgang Priklopil se jette sous un train de banlieue qui entre en gare. La mort plutôt que la justice et la prison. Natacha Campouche est libre. La police diffuse un film de 5 minutes tourné chez Priklopil. Un garage vide, un faux plancher, un escalier de 9 marches qui conduit au sous-sol. Derrière une commode, une porte en fer. Le passage s'effectue à genoux. Il donne sur un réduit de 8 mètres carrés sans fenêtre, un lit, un bureau, une chaise, un lavabo, un WC, des habits accrochés à des cintres. C'est ici que Natacha Campouche a passé 3096 jours de sa jeune vie. Morin Picard, ancien correspondant du Figaro en Autriche, est ce soir l'un de nos invités dans l'heure du crime. Alors bien sûr, les questions ne vont pas manquer sur cette détention, questions dont certaines se posent encore aujourd'hui, il faut bien le dire. On va en parler dans le chapitre qui va venir. Tout de suite, on revient tout de même sur cet incroyable événement, cette libération. Cette nouvelle, Morin Picard, c'est une bombe qui explose en Autriche. Évidemment, personne ne s'y attend.
Personne ne s'y attend dans la mesure où on est le 23 août, où l'actualité en Autriche comme ailleurs en Europe est très calme. Il fait un temps radieux, vous imaginez les gens qui se prélassent au bord du Danube, en terrasse, en centre-ville. On appelle ça la Gemütlichkeit, en allemand, la Dolce Vita si vous voulez. Mm-hmm. Puis, c'est donc un choc, c'est un choc absolu parce que ça explose sous un ciel radieux. Et puis aussi, comme on l'a dit, parce que tout le monde la croyait morte après tout ce temps.
Bien sûr. Blaise Gauquelin, notre deuxième invité ce soir dans l'heure du crime, journaliste de l'agence France Presse à Vienne. Que sait-on de ce Wolfgang Priklopil? Qui est-il, cet homme qui a presque une quarantaine d'années et dont on va découvrir la trajectoire et le portrait?
Alors, Natacha Campouche, on a dressé le portrait dans ses deux livres. C'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'amis, à part celui dont vous avez évoqué l'existence, qui voit beaucoup sa maman, qui n'a pas de relations sociales à l'extérieur de sa cave avec Natacha, qui cache Mein Kampf dans sa bibliothèque, mm-hmm. qui est un adorateur d'Hitler, qui crache sur les Juifs. Qu'Hitler avait eu raison de gazer, par exemple. Ça, c'est Natacha Campouch qui le dit. C'est les mots qu'il avait quand elle le servait à table, par exemple. C'est quelqu'un qui a des graves problèmes psychologiques. Par exemple, elle a raconté qu'il la frappait. Il la maintenait dans un univers concentrationnaire nazi. Et en même temps, il venait la chercher à minuit dans sa cave pour s'attacher à elle avec des cordelettes parce qu'il avait peur la nuit. Vous voyez, plus tard, on saura aussi qu'elle a subi des sévices sexuels. Bien plus tard, elle l'a pas révélé tout de suite. C'était quelqu'un de vraiment très perturbé, mais qui, par contre, avait une jolie maison, savait donner le change avec les voisins, comme le disait Morin précédemment, avait fait carrière à son niveau et maintenait quand même le change socialement, on va dire. Il faisait illusion socialement.
Il faisait illusion. Et Blaise Gauquelin, il faut ajouter à cela que finalement, il avait totalement prémédité cette action, il avait tout prévu. C'est lui qui a creusé cette espèce d'incroyable cache au fond de son garage.
Oui, c'est très particulier. Il a dit à Natacha, au bout de quelques années, qu'il l'avait choisi. Il l'avait repéré dans la rue, sur le chemin de l'école. Il l'a repéré plusieurs fois, 3-4 fois avant de l'enlever, en plein jour. Il faut quand même être assez téméraire pour faire ce genre de choses dans une capitale. Et elle n'a jamais compris pourquoi il l'avait choisi, elle. Plus tard, elle a pensé que c'était parce qu'il avait assez sordidement calculé que, étant d'un milieu très modeste, ce serait plus facile de la maintenir en captivité, qu'on la chercherait moins, étant donné que ses parents avaient des problèmes sociaux. Mais c'est ça qui est particulier le concernant, c'est que c'était quelqu'un d'assez méticuleux. Après, dans son maintien de sa survie à elle aussi, pendant 8 ans, il était quand même assez organisé aussi. Et le réduit est absolument sordide. Ce qu'il faut dire dans cette histoire aussi, c'est que les autorités autrichiennes, c'est ce qui fait aussi la notoriété de cette histoire, ont commis une grave erreur le jour de la libération de Natacha, en faisant témoigner les policiers qui avaient recueilli sa déposition, présentant les photos de la cave à la presse sans demander l'autorisation à la jeune fille et l'incitant très fortement à donner une interview à la télévision le soir même. Or ça, c'est un élément qui est devenu désormais un cas d'école de ce qu'il ne faut pas faire dans ce genre d'histoire, parce qu'elle est restée prisonnière de cette histoire à cause de cette volonté des autorités de se faire mousser autour de sa libération.
La première policière qui écoute longuement Natacha Campouch est l'inspecteur Sabine Freudenberger. Elle dit avoir été étonnée par l'intelligence, le vocabulaire et la façon de s'exprimer de la captive, comme si celle-ci, pourtant privée de professeur et d'école pendant 8 ans, avait été parfaitement éduquée. Dans les semaines qui suivent sa libération, Natacha Campouch se cache. Les autorités l'ont placée dans un lieu tenu secret, seulement connu de son avocat, des magistrats et des policiers qui mènent l'enquête, ainsi que du pédopsychiatre Max Friedrich qui est chargé de l'accompagner pour son retour à une vie normale. Celui-ci a aussi prévenu les médias que toute violation de la vie privée de sa patiente, toute publication de photos, ferait l'objet de poursuites. Natacha Campouch garde le silence et reste invisible dans un communiqué adressé aux journalistes et à l'opinion mondiale. Elle fait savoir que les questions intimes ne regardent personne. Malgré ses avertissements, les informations les plus disparates fusent. La policière qui a recueilli longuement son témoignage se fait réprimander pour avoir dit que la captive avait été abusée sexuellement, même si celle-ci a répété que tout était volontaire. Natacha Campouch refuse qu'on puisse salir la mémoire de celui qu'elle prénomme tout simplement Wolfgang. Aux enquêteurs, elle explique qu'il a été gentil en lui donnant des livres, des journaux, un poste de radio, une télévision. Rien d'un bourreau, même si celui-ci l'a battue, l'a menacée de la tuer si elle tentait de s'échapper, lui a fait croire que toutes les issues de la maison étaient piégées avec des explosifs, lui demandait d'accomplir des tâches ménagères, de l'appeler monseigneur ou maestro, ce qu'elle aurait toujours refusé. Au fil des années, Wolfgang Priklopil l'aurait peu à peu autorisé à passer du temps dans la maison, à l'accompagner, parfois faire des courses, et l'aurait même emmené une fois avec lui quelques heures au ski. Dès qu'il s'absentait, elle était bouclée à double tour. Natacha explique qu'il lui était impossible de s'enfuir. Elle avait essayé un jour d'alerter une passante depuis le jardin, mais celle-ci n'avait rien compris et avait passé son chemin. Elle avait fini par croire que tout le monde l'avait oubliée et que seul Wolfgang, désormais, pouvait la protéger. Le syndrome de Stockholm, le moment où la victime voit à son bourreau quelqu'un dont elle ne peut plus se passer. Malgré la fuite de Natacha Campouche, l'enquête demeure bel et bien bourrée de zones d'ombre. La police viennoise est accusée d'avoir cumulé des erreurs. 6 ans après la libération, une commission parlementaire accablera les enquêteurs. Ceux-ci auraient classé sans suite des renseignements cruciaux, baissé les bras à plusieurs reprises. Ils n'ont ainsi jamais cherché à savoir si le seul ami et associé de Wolfgang Priklopil, Ernst Holzapfel, était au courant de cette séquestration. Cet homme avait effectué un versement de presque 40 000 euros sur le compte de Priklopil juste après le rapt, officiellement pour des affaires. Une fois libre, Natacha Campouche lui a téléphoné une centaine de fois. Cet ami proche n'a jamais été entendu comme témoin. Et on retrouve dans cette heure du crime l'un de nos invités, Morin Picard, ancien correspondant du Figaro en Autriche, qui connaît très très bien cette affaire. Alors, Morin Picard, quand elle commence à parler enfin, Natacha Campouche, puisqu'elle va rester un petit peu prisonnière des autorités pendant quelques mois, qu'est-ce qui va ressortir de ces témoignages, de son récit qui est à la fois terrifiant et où elle ne veut pas non plus accabler son ravisseur?
Oui, elle raconte son calvaire, mais comme vous l'avez dit, elle refuse de commenter la nature des relations qu'elle a pu avoir durant sa captivité avec son ravisseur. C'est surtout un choc visuel quand elle apparaît pour la première fois à la télévision. Elle est assez jolie, un peu pouponne, comme on se souvenait d'elle, mais elle est plus fine, elle a beaucoup maigri, évidemment. Il l'a intentionnellement tenue dans un régime, une diète très sévère pour éviter qu'elle ait suffisamment de force pour s'enfuir. Durant cette interview, elle a les cheveux recouverts d'un voile mauve, et puis surtout, elle parle. Et c'est surtout sa manière de parler qui étonne tout le monde ce soir-là à la télévision autrichienne. Elle utilise un allemand distingué, du Hochdeutsch. Elle a la raison pour cela, c'est que pendant les premières années de sa captivité, elle n'a eu le droit d'écouter qu'une station de radio qui est un peu l'équivalent de France Culture en Autriche, Heinz. Et alors, elle fait des phrases complètes, elle termine ses mots, elle n'utilise aucun argot, aucune expression triviale, elle parle comme un livre. Et c'est probablement ce qui ressort de cette première interview.
Alors ça, c'est tout à fait surprenant. Évidemment, elle dément être sous emprise. Et pourtant, les psychiatres vont tout de suite le remarquer. Il y a ce fameux Morin Picard syndrome de Stockholm, c'est-à-dire l'attachement qu'on a finalement pour son ravisseur. En tout cas, on ne peut pas dire qu'elle en soit très loin à ce moment-là, Natacha Campouche.
C'est surtout sa réaction à l'annonce de la mort de Wolfgang Priklopil. Donc le soir même, elle l'apprend de la bouche des policiers et elle exige à ce moment-là, elle se met dans tous ses états, elle exige de pouvoir aller voir le corps de Wolfgang Priklopil à la morgue de Vienne, et elle éclate en sanglots sur son corps et elle l'enlace. Et on sait aussi, elle a dit qu'elle gardait une photo de lui dans son portefeuille depuis. Donc sa relation évidemment a été très forte, très perverse par la volonté même de Wolfgang Priklopil, mais elle a toujours refusé qu'on parle d'un syndrome de Stockholm en disant que tous ceux qui parlaient, qui commentaient son cas n'avaient aucune idée de ce qu'elle avait vécu.
Alors Blaise Gauquelin, journaliste Agence France Presse à Vienne, quand on écoute Morin Picard, évidemment la question qui suit, elle a presque vite sa réponse. Je voulais vous demander pourquoi ne s'est-elle pas enfuie plus tôt, Natacha Campouche ? Ça avait l'air tellement facile.
Alors, ce sont évidemment les premières questions qu'ont posées les Autrichiens, parce que la réalité dépassait tellement les pires fictions que les gens n'arrivaient pas à croire que c'était la réalité. Donc, elle était assaillie de questions sur ça. Et ce qu'elle a expliqué, c'était que le plan de Wolfgang Priklopil, qui ne voulait pas la tuer, qui était finalement aussi dépendant d'elle qu'elle de lui, c'était finalement de la faire remonter à la surface comme sa copine. Mmh. Au bout de quelques années, une fois qu'elle serait adulte. Et donc, il a commencé à la réhabituer à la lumière en allant effectivement faire du ski, en tondant le gazon du jardin, en essayant de tester comment réagissaient les voisins quand ils la voyaient apparaître, pour la faire apparaître comme sa petite copine. Et c'est finalement ce qu'il a perdu, parce que l'emprise sur elle n'était pas suffisante pour qu'elle se plie totalement à cet exercice. Et c'est en lui faisant confiance, finalement, qu'il lui a rendu sa liberté, parce que c'est en la libérant pour ce plan-là qu'elle a finalement trouvé le courage de partir. Et lui pensait qu'elle était suffisamment mûre, entre guillemets, suffisamment conditionnée pour accepter son sort jusqu'à sa mort.
Donc elle ne s'est pas enfuie pour ça, parce qu'elle était liée presque à son ravisseur. Et puis il faut rajouter, Blaise Gauquelin, et c'est important, vous l'avez dit un petit peu tout à l'heure, mais il faut le souligner, c'est qu'on va la voir, cette jeune fille, quelques années sans doute après le rapt, mais on va la voir dans ce genre jardins, il y a des voisins qui vont passer. Il y a le fameux ami proche aussi, un peu mystérieux du ravisseur qui va dire qu'il croyait que c'était sa petite amie, c'est ça ?
Oui, et c'est ça qui est fascinant encore dans cette histoire, c'est que elle est extrêmement connue. Il y a 240 000 pages de documents qui ont été finalement 270 000 même passés au peigne fin par le FBI parce que il y avait des théories du complot sur des éventuels complices, etc. Or, encore aujourd'hui, il n'y a que Natacha qui connaisse l'ensemble de la vérité. Et il y a deux positions en Autriche par rapport à cette réalité. Il y a celle qui est de dire c'est elle la victime. Après tout, il n'y a pas d'autre victime. Donc pourquoi toujours la harceler avec cette histoire dont elle a définitivement voulu ne révéler que ce qu'elle voudrait révéler? Et puis il y a les autres qui considèrent que peut-être il y aurait d'autres victimes ailleurs, etc. et qui voudraient qu'on sache l'ensemble de la vérité sur l'histoire.
Natacha Campouche va essayer de renouer avec une vie de jeune femme libre avec beaucoup de difficultés, au point de passer parfois pour une menteuse, d'avoir raconté une trop belle histoire pour expliquer son évasion, au point parfois d'être persona non grata dans son propre pays. L'affaire Natacha Campouche, 3096 jours de captivité, a-t-elle vraiment tout dit ? 10 ans après sa libération et 6 après son premier ouvrage, Natacha Campouche publie un deuxième livre de témoignages. Elle y déplore les suspicions et les racontards dont elle fait l'objet. On a trouvé que j'allais trop bien et on a cherché la petite bête. Certains ont imaginé qu'il y avait un réseau pédophile derrière mon histoire et que je ne racontais pas tout, déplore-t-elle dans ses interviews. Allusion à l'un des responsables de la police viennoise, le commissaire Franz Kröll, un fonctionnaire persuadé que la captive n'avait pas tout dit ou caché certaines choses dans le but de protéger des personnes. Avant d'être retrouvé suicidé d'une balle dans la tête, le policier Kröll aurait confié avoir découvert que Priklopil naviguait dans des milieux interlopes où des mineurs auraient pu être sexuellement abusés. Information jamais étayée et restée en friche. Natacha Campouche affirme qu'elle ne s'est jamais laissée influencée par Priklopil, qui lui a fait subir pourtant de nombreux outrages, mais à qui elle a pardonné. J'ai dû lui pardonner parce que sinon je n'aurais jamais pu conserver ma liberté intérieure. J'aurais été englouti par la haine et la colère, affirme-t-elle. En guise de dédommagement, la jeune femme est devenue propriétaire de la maison et de la voiture de son ravisseur. Elle est parfois retournée sur place et ne s'est jamais résolue à vendre cette demeure. Seule la pièce creusée en sous-sol, là où elle était détenue, a été bétonnée. Récemment encore, elle déclarait « Je ne me sens pas libre ». Blaise Gauquelin, journaliste de l'agence France Presse à Vienne. Natacha Campouche a aujourd'hui dépassé la trentaine, c'est évident plus du tout l'écolière qui avait été enlevée sur le chemin à Vienne par son ravisseur Priklopil. Qu'est-ce qu'elle devient aujourd'hui, Natacha Campouche ?
Alors, elle est passée par plusieurs étapes différentes. Quand elle est sortie, elle a commencé à devenir présentatrice télé. Elle a animé un show dans lequel elle demandait aux gens de se dévoiler. Elle a écrit ces deux livres qui sont assez remarquables, hein, qui ont été diffusés dans le monde entier, traduits dans une quarantaine de langues, sur lesquels elle a vécu longtemps, et qui démontrent vraiment une personnalité très intelligente. Et puis après, elle a repris ses études, et là, elle a passé son bac quand même, et elle aime la décoration, mais elle vit quand même des retombées médiatiques de ses différentes apparitions publiques, et c'est ce qui brouille son image auprès du public autrichien, en sachant aussi que les théories du complot dont vous avez parlé, elle en a énormément souffert, mais c'était une instrumentalisation politique de l'extrême droite en Autriche, qui est à l'époque dans l'opposition, et qui a accusé les cercles sociaux-démocrates qui c'est vrai, était autour de la jeune fille et qui était au pouvoir de vouloir étouffer une affaire d'État avec un réseau pédophile, enfin bref. Oui. Et ça, je m'en suis rendu compte en enquêtant sur place. Il y avait des liens absolument concrets entre les enquêteurs dont vous avez parlé et l'extrême droite en Autriche.
Vous faites allusion au fameux commissaire, entre guillemets, Franz Kröll, c'est ça ?
Oui, son frère, en fait, si vous voulez, à Franz Kröll, qui avait porté plainte contre l'État parce que son frère avait fini par se suicider à cause de cette histoire. Si vous voulez, en fait, il était défendu par un avocat qui était un député d'extrême droite très connu en Autriche.
par exemple.
Donc la politique a fini par s'emparer de cette histoire. Hein.
Voilà, exactement. Parce qu'il y avait eu un précédent scandale avec la gauche, comme ça, de complot, qui était celui-ci avéré. Et donc, les Autrichiens répondaient à cela. Oui. Il y a eu aussi une autre histoire, qui est l'affaire Fritzl, qui est apparue
après, dont on a beaucoup moins parlé, finalement.
Voilà. Beaucoup plus grave,
mais les leçons avaient été tirées, finalement, de cette histoire Campouche. Hein.
Exactement. Donc, c'est vrai que les Autrichiens se sont dit, mais si nos enfants disparaissaient demain, est-ce qu'on pourrait compter sur l'État pour les retrouver ?
Bien sûr.
Et c'était une vraie question.
Morin Picard, vous êtes, vous, ancien correspondant du Figaro en Autriche. Alors, peut-être enquête, peut-être instrumentalisée, ce que nous dit Blaise Gauquelin. Mais tout de même, il faut bien le reconnaître, c'est une enquête qui est ratée. Il va y avoir des commissions parlementaires qui vont se réunir. On va dire que finalement, les policiers viennois, ils n'ont pas vraiment bien fait leur travail. C'est le moins qu'on puisse dire.
Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Et l'enquête qui a suivi, pour essayer d'expliquer l'enquête bâclée des origines, a elle-même abouti à un non-lieu, puisqu'ils ont, dans une conférence de presse début 2010, il a été annoncé que l'affaire Campouche était définitivement résolue et que Wolfgang Prekopil était l'unique coupable. Mmh. Donc ce fameux Ernst Holzapfel dont on parle n'a jamais été inquiété, vous l'avez dit, ce qui est absolument saisissant.
C'est très étonnant cette histoire, parce que le meilleur ami qui était au courant quasiment de tous les secrets du ravisseur de Prekopil, alors lui, on n'en a jamais parlé. Il a disparu des radars du jour au lendemain.
Oui, et puis on a retrouvé des images de caméras de vidéosurveillance dans ce centre commercial où il retrouve Wolfgang Prekopil à l'appel de Prekopil le jour de l'évasion de Natacha et de la fuite du ravisseur. On les voit parler de manière très agitée l'un avec l'autre et d'emblée, Holzapfel sort un mensonge puisqu'il dit que Prekopil a paniqué, lui a dit qu'il était recherché par la police pour conduite en état d'ivresse. Et dans un deuxième temps, il va reconnaître auprès de la police que c'est pas vrai du tout. En fait, il savait que Prekopil lui avait avoué, semble-t-il, qu'il retenait une jeune fille captive chez lui. Donc en fait, rien ne colle, tout est bancal.
En un mot, Morin Picard, pourquoi finalement on a épargné ? Pourquoi on n'est pas allé plus loin ? Il y a des intérêts en jeu, selon vous ? Ou c'est simplement de l'oisiveté, peut-être, hein ?
De l'oisiveté, oui, c'est difficile d'y croire. On est dans un petit pays hein, d'un peu moins de 9 millions d'habitants. Tous les cercles de pouvoir sont très intimes, ce qui facilite, ce qui attise aussi les rumeurs fréquentes et scandales étouffés. On peut par exemple se souvenir de Jörg Haider, qui est mort dans un accident de la route, le dirigeant d'extrême droite en 2009. À l'époque, toutes les rédactions savaient qu'il était homosexuel, mais pas l'opinion publique. Et on découvre à l'occasion de son accident qu'il est mort un petit peu dans des circonstances liées à une relation homosexuelle. Donc c'est un pays où finalement les secrets sont très bien gardés et les scandales sont fréquents, les rumeurs, et on peut se demander ce qui s'est passé avec la mort de cet enquêteur en chef deux mois seulement après la conclusion de l'enquête.
C'est tout à fait effectivement troublant. Blaise Gauquelin, journaliste AFP à Vienne, en quoi aujourd'hui le cas Campouche reste un cas presque... j'allais dire unique, c'est une histoire incroyable qui n'a pas son équivalent, je pense, dans l'histoire criminelle en matière de rapt à ce niveau-là.
Oui, pour rebondir sur ce que disait Morin, on a affaire à une victime qui ne veut pas que l'enquête continue. Donc c'est particulier, vous ne pouvez pas continuer une enquête si la victime vous dit que c'est bouclé, circulé, il n'y a plus rien à voir. Donc c'est pour ça effectivement aussi que cette personne n'a pas été plus inquiétée que ça, puisque Natacha Campouche manifestement considère qu'il n'a joué aucun rôle dans sa disparition. Si vous avez une victime qui vous dit ça, vous n'avez aucune base légale sur laquelle continuer à enquêter sur cette personne.
Bien sûr.
Donc c'est la particularité de cette affaire aussi, c'est que Natacha Campouche tient de A jusqu'à Z à maîtriser le récit de cette histoire, et finalement, la perception du public a changé sur les victimes en 20 ans. En 20 ans, maintenant, on considère que c'est à peu près normal et que finalement, c'est son bon droit. À l'époque, on a considéré qu'elle cachait un réseau pédophile. Voilà. Donc c'est notre perception qui a changé, et elle était en avance sur son temps, si vous voulez. C'était une victime qui ne voulait pas être une victime, qui voulait dire sa vérité, qui a continué à être dans la lumière quand les gens auraient voulu plutôt qu'elle se taise, parce que les autorités autrichiennes ont dépensé des millions d'euros
pour enquêter sur elle.
Et finalement, Blaise Gauquelin, c'est elle qui a écrit effectivement l'histoire et cette histoire incroyable. Merci beaucoup Blaise Gauquelin et Morin Picard d'avoir été ce soir les invités de l'heure du crime avec l'affaire Natacha Campouche, 8 ans de captivité, seul témoin de son propre calvaire. Affaire qui continue d'agiter les imaginations et de susciter interrogations et fantasmes aussi, il faut bien le reconnaître. Merci à Justine Vigneault, Marie Bossard, préparation de l'émission, Vivian Lecuivre, la réalisation. Un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir cette heure du crime.